Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Une émission un petit peu particulière, aujourd'hui on va évoquer la disparition d'Étienne Moujotte. Étienne Moujotte qui a été le patron de TF1, qui a également été l'un des dirigeants d'Europe 1, Télé 7 jours, le JDD, le Figaro, Radio Classique, un homme de radio, de télévision, de presse, journaliste, je dirais que c'est ce qui le qualifie le mieux, un homme curieux, un homme élégant, un homme visionnaire, qui a découvert un très grand nombre d'animateurs et puis qui avait un vrai sens de l'information évidemment, mais aussi du public, du goût du public. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été créées. Il y avait une créativité à cette époque sur TF1. Il a fait partie de la privatisation de TF1 et aux côtés de Patrick Lelay,
ils ont fait la première chaîne
d'Europe. Donc on va évoquer cet homme, sa carrière avec Bernard Montiel qui a travaillé 17 ans sur TF1 avant d'être viré par Étienne Moujotte, qui va nous en parler. Charles Villeneuve également sera avec nous, l'un de ses fidèles parmi les fidèles. Et puis Dominique Cancien, directrice des variétés de TF1, des divertissements également, et qui a été l'artiste également d'un certain nombre d'émissions qui ont marqué, dont Coucou c'est nous, un certain nombre d'émissions avec Christophe de Chavannes.
La question du jour, c'est justement, est-ce que l'époque, Sabatier, Sébastien, toute cette époque-là, est-ce que ça vous manque? Est-ce que l'époque Étienne Moujotte à TF1 est quelque chose qui vous manque? Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de TF1.
De TF1, Sud Radio. Encore, hein.
Et oui, j'ai tellement pensé TF1 en préparant l'émission que vous voyez.
Ouais, et vous répondez oui à 67,4%. C'est peut-être la nostalgie, c'est de Chavannes, Foucault, Sabatier. Arthur, c'était d'autres émissions. Une autre manière peut-être de faire de la télévision. On passe au zapping, un zapping un petit peu particulier.
Évidemment.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Étienne Moujotte, qui était un journaliste, aurait aimé que je commence par l'info, donc je vais commencer par l'info, Valérie. Il était d'ailleurs actionnaire de TF1 privatisé et un ami d'Étienne Moujotte.
Non, de Patrick Lelay. Pardon.
Comme vous y êtes, un ami d'Étienne Moujotte, Bernard Tapie, qui donc a combattu un cancer, comme lui. Hier, le cercueil de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille trônait dans le stade, quelque chose qu'on n'a jamais vu, un patron enterré. Là aussi, son fils Stéphane Tapie était très fier de ce moment-là.
Le boss, voilà, j'avais dit que je le ramenais à la maison, voilà, il est chez lui, les supporters étaient là, et il serait fier. Et il est fier.
Aux armes chantées par les supporters, comme s'il était là finalement.
Mais il est là. Il est là, puis il est sur la pelouse. Donc maintenant, de temps en temps, il y aura des tacles magiques qui sortiront de dessous la pelouse. Ouais, voilà, c'est comme ça. Il est chez lui.
Hier, donc, Étienne Moujotte est mort d'un cancer à 81 ans, patron de presse, directeur des programmes, mais aussi un patron d'influence. L'homme aura marqué à jamais les médias. Il a fait de TF1, on en parlait, la première chaîne d'Europe. Hier, Gilles Boulot en a parlé dans son 20h.
Quel autre journaliste et patron de presse peut se vanter d'avoir dirigé les programmes de TF1, Le Figaro, Télé 7 jours, Le Journal du Dimanche, tout en ayant présenté des journaux à la télévision et à la radio? Étienne Moujotte a vécu passionnément pour le journalisme, pour le grand public. Il a marqué notre maison TF1 qu'il a dirigée de 1987 à 2007 aux côtés de Patrick Lelay. Il est mort aujourd'hui à Paris, il avait 81 ans.
Valérie Gilles Boulot vient d'en parler. Hein. Étienne Moujotte était un journaliste pur sucre, comme on dit. Il avait tout connu, le terrain, et comme la présentation aussi du Trésor. À l'époque, ça s'appelait le Télémidi. Et je vous propose d'écouter le Télémidi du 4 juillet 1970, où ça ne nous rajeunit pas. Et aux commandes du journal, Étienne Moujotte.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, je vous propose d'abord de voir en un coup d'œil comment se présente ce week-end. La France grelotte, je ne vous l'apprendrai pas. Le thermomètre va peut-être un peu remonter cet après-midi et surtout, on l'espère, pour demain. L'Irlande du Nord brûle. Il y a eu cinq morts cette nuit à Belfast, des heurts entre catholiques et soldats britanniques. L'Amérique se repose car c'est aujourd'hui là-bas la fête nationale, l'indépendance Day, disent les Américains. Le monde du tennis attend cet après-midi à Wimbledon la victoire de Ken Rosewall. Enfin, le monde du jazz célèbre aujourd'hui l'anniversaire de Louis Armstrong. Il a 70.
Vous avez vu la structure du journal ? Il a démarré comme Jean-Pierre Pernaut par la météo. Hein. Il savait que la météo, ça intéressait les gens. Et puis un peu de divertissement et un peu d'infos et de l'international. L'amoureux de l'info avait donc... Étienne Moujotte était donc amoureux de l'info. Et bien avant tout le monde, il a senti que les chaînes info seraient incontournable. Le 24 juin 1994, il lance LCI. À l'époque, David Pujadas est l'un des jeunes visages de la chaîne. 27 ans plus tard, il rend hommage à Étienne Moujotte, évidemment, sur LCI.
C'est une chaîne d'information. Je crois vraiment que c'est ce qu'il y a de plus difficile et par conséquent, c'est ce qu'il y a de plus fort.
5, 4, 3, 2, 1, top LCI.
Voilà, alors Étienne Moujotte, c'était un patron dur, souvent. qui avait de l'autorité et qui parfois en usait sans ménagement. Mais enfin, on parlait de vision tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait une vision de la télévision et un sens de l'actualité. C'était, et en fait, il était toujours resté journaliste, Étienne Moujotte. Voilà, donc on a une pensée particulière, il avait 81 ans. Il est de coutume, vous savez, de toujours faire des hommages et de dire, c'était... Bah, en ce qui concerne la télévision et la presse, voilà, il a été un grand. Il a été un grand. Salut Étienne.
Je voudrais peut-être vous lire, juste avant que vous terminiez, le, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommages, comme il y a toujours des hommages
des
animateurs. Il y avait vraiment de l'émotion dans les messages qui ont été publiés, mais il y en a deux journalistes du Figaro. Anne Jouan qui dit « Mort d'Étienne Moujotte, c'est celui au Figaro que des rédacteurs en chef, dont le talent n'avait d'égal que le courage, allaient voir avant le comité pour lui demander de ne pas passer les papiers médiator. Son frère était directeur financier chez Servier. Il leur répondait assez courageux en passant les papiers. » Et donc, il m'en laissera passer plus de 150. Il a accepté. Enfin, voilà, il était journaliste. Il ne faisait. Quand on reproche aujourd'hui, parfois aux patrons, les collusions, etc., lui laissait passer ses papiers. On nous a souvent demandé pourquoi Moujotte, si Sarkophile avait laissé passer ses papiers sur Mediator, alors que Sarkozy avait été l'avocat personnel de Servier. Aucune idée. Et elle dit mieux vaut ne pas savoir. En tout cas, Moujotte arrivait le matin avant tout le monde, lisait toute la presse, étrangère comprise, avant le comité. Il s'emmerdait en vacances et il savait renifler une info. Et il avait dû renifler Mediator. Voilà, je vous conseille d'aller voir le tweet d'Anne Jouan et puis une autre journaliste qui dit « Moi, j'ai dû m'occuper de mon fils malade, il m'a laissé m'absenter tout en me payant pendant des mois. » Donc, le côté humain, mais certainement aussi dur et exigeant, comme l'ont souligné parfois certains journalistes.
Et vous l'avez énoncé au début du son, vous avez entendu en fait le lancement de la chaîne, suivi par David Pujadas. Sur Canal+, dans Télé Dimanche, il avait raconté sa philosophie et son inspiration qu'il avait hérité de Pierre Sabag.
Que vous a appris Pierre Sabag, Étienne ?
Moi, il m'a appris à écouter le public, il m'a appris à respecter le public, il m'a appris que le public avait toujours raison, et il m'a appris que le public avait bon goût, et que toujours, il fallait l'écouter, voir ce qu'il demandait, et essayer de le satisfaire. Et en ce sens, c'était un homme extraordinairement moderne, qui répondait très exactement à ce qu'est la télé aujourd'hui, et il le faisait il y a déjà 40 ans.
Et voilà, le respect du public, comme l'avait peut-être Bernard Montiel.
Bonjour Bernard Montiel.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été l'une des figures emblématiques de TF1 entre 87 et 2003. Vous avez présenté Téléconnexion, Un samedi nommé Désir, Crise de rire, Une famille en or, et puis évidemment Surprise, Surprise et Vidéo Gag. Quel souvenir vous gardez d'Étienne Moujotte, à part le fait qu'il vous a viré ?
Oui, mais justement, c'est intéressant. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours admiré Étienne Moujotte, d'abord, pas sa dureté, mais parce qu'il connaissait très bien la télévision et que moi je l'écoutais. J'écoutais presque comme un gourou, je dois dire, d'ailleurs avec Dominique Ancien, qui était avec lui et qui était aussi très performante et connaissait bien la télévision. Et Étienne Moujotte, il avait cette dureté, mais cette justesse aussi, vous savez. J'acceptais tout ce qu'il me disait. Moi qui ai un foutu caractère, j'avoue que j'avais souvent du mal à entendre ce qu'il me disait, mais il avait raison. Donc cet homme était tout à fait respectable, il connaissait bien son métier, etc. Mais quand il m'a viré, justement, justement. Il était très embarrassé. Parce qu'à l'époque, je le rappelle, c'était en 2003, j'avais balancé sur tout le monde. Oui. J'en avais ras-le-bol. Je devais faire une émission sur LCI. Dacier, comme d'habitude, a reculé et a menti. Donc lui, il m'a dit, bon écoute, laisse tomber. Je suis obligé de te virer. Je te vire, mais je t'aime beaucoup. Voilà ce qu'il m'avait dit. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et il se trouve que 6 mois plus tard, il m'invite à la table officielle de TF1 au Festival de la Fiction de Saint-Tropez à l'époque, à côté de lui, pour bien prouver à tous qu'il m'aimait bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que dans son livre Pouvoir, il a quelques lignes à mon sujet très touchantes où il dit que je regrette de l'avoir viré. Mmh.
Quel souvenir vous garderez de lui ? Quel patron c'était ? Parce qu'on entend que vous l'avez dit, il pouvait être dur parfois. Toutes ces émissions, il les a voulues, toutes ces émissions que vous avez animées ?
Ah oui, il les a voulu, puis il était très attentif. Souvent, il disait, on va prendre Montiel. Il disait, Montiel, il peut tout faire. Alors, c'était à la fois La Une est à vous le samedi après-midi en direct. C'était à la fois La Famille en or. Dès que le pauvre Patrick Roy a eu ses soucis de santé, il a dit, il faut mettre Montiel. Vous voyez, il était, mais c'était direct, c'est-à-dire qu'il hésitait même pas. Et bon, moi, j'étais toujours ravi qu'il pense à moi, évidemment. Et c'est vrai qu'on avait tous un peu la terreur de monter au 14e. Vous savez, cette fameuse tour de TF1 où il y avait ses bureaux et de l'autre côté, il y avait le bureau de Patrick le lait. Donc, mais c'était, comment dirais-je, c'était un homme qu'on écoutait, c'était un homme de, respectable, un grand. Moi, je crois que j'ai eu la chance de vivre, et je l'en remercie, d'avoir vécu les grandes années, les belles années de TF1, les golden years, comme je dirais.
Mais quel conseil il vous donnait ? Vous dites qu'il vous appelait ou qu'il vous donnait des conseils, que vous aviez des conflits parfois, parce qu'il vous demandait quoi de faire à l'antenne ?
Non, il me dit surtout sois naturel, les gens t'aiment, t'as du pot, il me dit. Il me dit t'as de la chance, les gens t'aiment, comme vous l'avez dit juste avant, et c'est lui-même d'après sa déclaration, il disait le public a toujours raison. Les gens t'aiment, c'est que tu as quelque chose en toi d'important. Alors ça, tu le gardes. Tu gardes ton naturel, tu gardes ton sourire, c'est très important. Ne trompe jamais le public. Et toi, tu ne trompes pas le public. Donc tu iras loin. Et il y a eu que cette histoire entre nous malheureuse à l'époque, mais on est resté proches toujours quand même.
Alors, on aura tout à l'heure un Dominique Cancien avec nous et puis Charles Villeneuve qui est en ligne également. Merci beaucoup Bernard Montiel d'être venu ce matin. Oui.
Et justement, Valérie Étienne Moujotte, c'est aussi donc Europe 1 et l'info, une bande qu'il va constituer avec Charles Villeneuve sur les ondes pour ensuite emmener tout le monde sur TF1. Vous allez voir, il l'évoquait au micro d'Europe 1 et vous allez voir qu'on a appelé ça le clan Moujotte. On va pouvoir en parler avec Charles Villeneuve.
Vous allez vous entourer, Étienne Moujotte, à Europe, de beaucoup de talents.
Gymnase, c'était Levaille, c'était Boissonnat, c'était Alain Duhamel, c'était Carreau, c'était Villeneuve, c'était toute une série de gens incroyablement différents et qui, effectivement, avaient parfois tendance à jouer chacun sa partition. Hein, il faut pas non plus idéaliser cette époque. Il y a des moments où le chef d'orchestre, il avait un peu de mal à mettre tout ça en harmonie, mais il y avait quand même de grands journalistes, de vrais et grands journalistes, et des personnalités fortes.
Ça termine fortes. Comme ça. Charles Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des plus fidèles, j'ai envie de dire, compagnons de route d'Étienne Moujotte. Vous avez été directeur des sports sur TF1. Vous avez animé Le Droit de Savoir pendant plus de 17 ans. C'est resté à l'antenne de TF1. Vous avez produit cette émission Appel d'urgence. Beaucoup d'émissions. Question un peu banale, mais quel souvenir vous gardez d'Étienne Moujotte ?
Étienne, là, justement, j'ai écouté votre antenne et on parlait de clan. Oui. Étienne n'était pas clanique. Simplement, la petite bande qu'il avait constituée autour de lui, c'est Eugène Saccomano qui nous avait appelés les capitaines portugais de Moujotte. essentiellement composé de Carreau, de Dacier, de Bruno Dalle, etc., etc. Et pourquoi les capitaines portugais ? Parce que les noms que je viens de citer moi-même, nous couvrions à l'époque où il va nous nommer chacun chef de service, rédacteur en chef, etc. Nous couvrions la révolution des œillets au Portugal. Vous vous souvenez, la révolte des capitaines, etc. Et ça s'est passé juste à ce moment-là. Et quand il nous a nommés, donc à Europe, parce que Étienne a construit sa réputation d'abord à Europe 1, de 74 à 81, où il a fait du programme parce qu'il avait une une extraordinaire capacité de composer une antenne de manière très diverse. Et ce journaliste, qui était d'abord avant tout un journaliste politique, à TF1 a pris une autre stature, c'est que tout remontait à lui au niveau des programmes. Aussi bien le 20h, 7 sur 7, le droit de savoir, mais aussi Navarro, le comte de Monte Cristo, Sacré Soirée, le Bébête Show, Koh-Lanta, la Starac, les Enfoirés. Et c'est là qu'Étienne a pris sa dimension, avec l'appui évidemment de Patrick Lelay, avec lequel il était fondamentalement différent. Oui. Tous les deux, le mardi matin, au comité, si vous voulez, de stratégique, de décision, il n'y avait pas plus différent que l'industriel Patrick Lelay, qui n'avait pas une affection extraordinaire pour les journalistes, et ceux qui étaient autour de cette table. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un certain nombre de stars gagnaient, si vous voulez, avaient des cachets aussi importants, alors que des études d'ingénieurs ne les amenaient pas, si vous voulez, à des émoluments aussi importants. Ça, c'était son grand truc, de toute façon. Et donc, nous, on ne faisait pas de commentaires, bien sûr. Mais, enfin, bref, on a vu devant nous Moujotte prendre une dimension supplémentaire. C'est en cela qu'il avait acquis un savoir-faire unique dans la composition d'une antenne et associé à une facilité d'adaptation étonnante et, il faut le dire, une capacité de travail impressionnante. Tous les soirs à 20h, on allait voir son journal dans son bureau et on récapitulait tous les épisodes de la journée, toutes les difficultés, tout ça. Moi, j'avais la responsabilité de la filiale de TF1 où il y avait le sport, en effet, vous l'avez rappelé, les magazines d'information, surtout politiques, et aussi les opérations spéciales. Et puis, il y avait Dacier, qui lui dirigeait LCI. Et puis, Carrero, qui était le patron du service politique et le patron de l'info. Et donc, ça, c'était évidemment, il y avait une petite dimension clanique. En tout cas, je dirais que ceux qui venaient de chez Bouygues considéraient qu'il y avait quand même un clan Moujotte, c'est vrai.
Oui, mais il était fidèle. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est son immense capacité de travail. C'est-à-dire qu'on sait qu'il se battait contre un cancer, mais que jusqu'au bout, il voulait travailler, il voulait participer, encore une fois, à ce qu'était l'info. Il s'intéressait, il n'a jamais perdu cette curiosité qui l'a toujours animé et guidé.
Absolument.
Vous vous souvenez d'une engueulade avec lui ?
Attends, laissez peut-être terminer, oui, sur ça, sur
moi,
cette...
Non.
Pas d'engueulade avec
lui. Pas d'engueulade.
Jamais.
Mais sur cette force qu'il avait, cette volonté, on se souvient quand il était, enfin moi je me souviens à l'époque d'LCI, quand il participait au grand jury, il avait toujours du mal à parler, mais il y allait et il dominait cette difficulté.
Mais vous savez, Étienne n'a jamais commenté sa maladie qui a commencé le jour où il est rentré quasiment à TF1, en 87.
Oui, il avait 47
ans. Il s'est battu, ça fait 50, j'ai travaillé 51 ans avec lui, à partir de 70 jusqu'à aujourd'hui. Le dernier à l'avoir vu, c'est Francis Morel, qui a été le directeur général du Figaro, etc., et qui est passé lui aussi par TF1. Et moi, je l'ai vu juste au début de l'été. Bon. Et en réalité, il ne voulait plus voir personne parce qu'il était épuisé. Bon. Et il n'empêche qu'un certain nombre d'entre nous l'ont toujours vu régulièrement, en permanence, parce qu'il avait une véritable tête politique. Et Dieu sait s'il en faut une aujourd'hui.
Oui.
Tout ce qui se passe et tout ça. Bon. J'écoute votre radio, j'écoute vos émissions, donc c'est assez intéressant parce que vous avez une signature particulière. Donc, Moujotte, je vais vous raconter une anecdote qui résume bien Moujotte. Le journaliste, mais aussi l'homme du divertissement. Il mettait sa patte dans le choix des séries, dans les choix des
comédiens.
Des comédiens. Et la Starac. Il y avait un comité un casting, une sélection à la salle de projection de TF1, l'auditorium. Il y avait tous les producteurs qui étaient là, de Louvain, en passant par un tas de gens, etc. Je suis descendu parce que avec Moujotte, c'était ça, à n'importe quelle heure de la journée, la porte était toujours ouverte, on avait un problème à résoudre, on allait voir Moujot, et Moujot sortait de son bureau ou même demandait de poser le problème pour le résoudre. C'était toujours immédiat, bon, quel que soit le secteur qu'on couvrait. Et là, il s'agissait de choisir des jeunes femmes, des jeunes filles, des garçons et tout ça pour bon. Et ils avaient choisi, en définitive, tout le monde s'accordait sur une chanteuse sympa, une jeune femme qui était un peu ronde, etc., et qui chantait vachement bien et qui tout le monde trouvait adorable, sympathique sur le plan humain. Moujot a dit, vous avez raison, elle sera sympathique, le public va l'adorer. Mais Pascal Nègre, qui était là, vous savez, le producteur
le patron de la musique,
de la musique il dit, ben oui, elle est formidable, tu as vu comme elle chante bien, absolument. Mais elle ne va pas vendre un disque. Moi, je vous le dis. Oui. Vous la choisissez, très bien, je ratifie, mais elle vendra très peu de CD. Et elle a gagné, en
Magali
effet.
Veillé.
Et elle n'a pas vendu beaucoup de disques. Et ça, ouais. C'était Moujot. Parce que Moujot, quand vous rentriez dans son bureau, vous pouviez observer la manière dont il remplissait le fauteuil. Les reins calés au fond du fauteuil, les pieds à plat, en vrai lorrain. C'est-à-dire un bon sens paysan extraordinaire. Que moi, ouais. Qui suis un Français d'Orient, etc., lui aussi était très attaché à ça, puisqu'il avait fait son service militaire à Beyrouth. Nous, on n'est pas tellement pourvus du bon sens paysan, si vous voulez, de la Lorraine. Ouais. Et ce que j'ai le plus appris avec lui, c'était ça. C'était qu'il y avait des lignes qu'il ne fallait pas franchir, qu'il fallait faire attention à l'opinion publique profonde, et que le bon sens fallait toujours en avoir dans le choix d'éditoriaux ou le choix d'émissions.
Il avait ce vrai sens du public.
Il avait un sens populaire exceptionnel. Exceptionnel. Et tout ce qu'il a fait, il l'a quand même réussi, tout.
Oui, oui, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a évoqué Europe 1, on a évoqué Télé 7 jours, on a parlé évidemment d'LCI, première chaîne d'info, et puis cette réussite qu'il a eue avec TF1, avec Patrick Lelay, première chaîne d'Europe. Donc c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage ce matin. On vous écouterait pendant des heures,
oui,
Charles Villeneuve.
Merci
d'avoir été avec nous. Vous le savez, le temps passe. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va être avec Dominique Cancien. Je vous propose de marquer une toute petite pause. Merci, Charles Villeneuve, et on se retrouve tout de suite.